conférence de Pierre Blanc, professeur de géopolitique à Sciences Po, dépasser l'analyse religieuse des conflits.
Cet alliage entre les sionistes religieux, Gush Emunim, prêts à coloniser les territoires, et la droite sioniste israélienne, qui n'est pas très religieuse ou peu religieuse, c'est cette association qui va prendre le pouvoir en 1977. Et ils vont le garder pratiquement tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une exception, c'est 1992, ils perdent les élections, et c'est Yitzhak Rabin qui les gagne. Et on est, vous rappelez, à la fin de la guerre du Golfe, où il y a une volonté de paix américaine, à ce moment-là, ils font pression sur Israël, et on entre dans le processus d'Oslo. Donc il y a un virage qui semble prometteur à ce moment-là, en Israël. Sauf que, vous savez très bien ce qui s'est passé, Yitzhak Rabin est assassiné, justement, par un ultra-sioniste religieux, Yigal Amir, en 1995. Voilà. Et, finalement, les travaillistes vont quitter la scène très vite. Et c'est l'alliage entre la droite israélienne peu religieuse et les sionistes religieux qui prend le pouvoir jusqu'en 2018. Jusqu'en 2018, en colonisant toujours plus la Cisjordanie, en rendant toujours plus impossible la résolution de ce conflit. Notamment en colonisant les montagnes de Samarie-Judée. Et ces sionistes religieux, aujourd'hui, puisqu'on s'intéresse à la dimension religieuse, ils pèsent aujourd'hui, alors qu'ils étaient totalement absents, hein, c'est ça que je voulais vous dire, ils étaient totalement absents pendant longtemps. Ils pèsent politiquement, territorialement et militairement. Et ils contribuent à ne pas pouvoir résoudre le conflit. Politiquement, ils pèsent moins numériquement qu'en termes d'influence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont moins de 10%. Mais ils pèsent en termes d'influence parce que dans la démocratie israélienne, qui est une démocratie, eh bien, il ne peut y avoir que des coalitions. Et ils sont toujours dans les gouvernements de coalition avec le Likoud, aujourd'hui. Et donc, ils sont indispensables. Ils sont indispensables pour le gouvernement actuel de Netanyahou. Alors même qu'ils pèsent moins que 10%. Et ils ont 8 députés sur 121, je crois. Ils ont 4 ministres. Et ces ministres, c'est quand même pas n'importe quel ministre. C'est le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett. C'est la ministre de la Justice, Ayelet Shaked. Qui sont, je peux le dire, avec toutes les précautions d'usage, qui sont profondément racistes. Je pourrais vous citer des déclarations. C'est pas du tout le judaïsme de Martin Buber, qui pensait l'altérité. C'est un judaïsme replié, agressif, raciste. Et ils pèsent politiquement, et c'est eux qui sont le plus en pointe pour exiger l'annexion d'une grande partie de la Cisjordanie, au prétexte que ces zones C, là, que vous voyez en saumonné, eh bien, accueillent l'essentiel des colonies. Donc ce sont eux qui portent les idées les plus extrêmes, mais on voit bien que Netanyahou va vers ces idées maintenant, va vers ces idées. Parce que justement, alors ils pèsent politiquement et justement ils pèsent territorialement parce que c'est eux qui sont les plus présents dans les colonies. Donc c'est eux qui ont le moins envie d'un processus de paix qui envisagerait une rétrocession de territoire. Et ils pèsent militairement, oui bien sûr, aujourd'hui, puisque à peu près ces colons sionistes religieux représentent 25% des militaires israéliens aujourd'hui. Autrement dit, l'appareil militaire est quand même en partie très influencé par ces sionistes religieux. Voilà sur ce premier point. Vous avez bien compris que, c'est un peu rapide ce que j'ai dit, le sionisme n'était pas religieux. Il est devenu, surtout après 1967, il reste minoritaire, mais il est indispensable politiquement. Alors, en disant ça quand même, on ne peut pas réduire le sionisme, évidemment, à la dimension religieuse, que, encore une fois, il y a des antisionistes en Israël qui sont très présents. Il faut aussi dire, je l'ai déjà dit, que la droite qui détient l'essentiel du pouvoir n'est pas très religieuse, donc on ne peut pas dire que la dimension religieuse soit écrasante. Et puis, il y a aussi des juifs en Israël qui sont très engagés pour le droit des Palestiniens, il faut le dire aussi. Et notamment, par exemple, l'organisation des rabbins pour les droits de l'homme. Ces rabbins pour les droits de l'homme vont protéger les oliveraies des Palestiniens au moment des récoltes, qui sont attaquées par des colons. C'est un exemple. Voilà. Donc, quand on dit qu'il y a une dimension religieuse, qu'on souligne qu'il y a des sionistes religieux, il faut aussi éviter l'effet de loupe et regarder ces juifs religieux qui, au nom de leur judaïsme, protègent et dénoncent. Voilà. Et puis surtout, cette dimension religieuse, elle serait si beaucoup moins prégnante si la communauté internationale avait été beaucoup moins pusillanime, voire même complice. Et je pense aux États-Unis, qui sont caricaturalement complices aujourd'hui de cet état de fait, qui est une violation du droit international. Donald Trump, qui s'appuie lui-même, et c'est terrible pour un chrétien que je suis, qui s'appuie sur des chrétiens, plutôt évangélistes, qui ont une lecture littéraliste de la Bible et qui considèrent que tous les juifs doivent revenir en Palestine en anticipation du retour du Messie. Voilà sur quoi Donald Trump s'appuie pour accompagner ce conflit israélo-palestinien. Pour finir, du côté palestinien, la dimension religieuse, en quelques mots, elle est également assez tardive. Même si, il faut le dire, les Palestiniens les Palestiniens de Palestine vivaient sous l'Empire ottoman turc, et il n'y avait pas de nation palestinienne avant le XXe siècle. De toute façon, la perception de la nation, c'est un phénomène récent, y compris en France, en Allemagne, c'est le XIXe siècle. Il n'y avait pas de nation palestinienne, donc les Palestiniens étaient avant tout ou chrétiens ou musulmans. Bon, et la première réaction, elle est plutôt religieuse, entre guillemets, en 1919, quand les Palestiniens voient ce que les Anglais sont en train de tramer, ils organisent une conférence islamo-chrétienne de Palestine pour dénoncer ces projets britanniques. Et puis, entre 1936 et 1939, il y a un type qui vient de Syrie, au nom d'un djihad, d'une libération de la terre de Palestine, appelle les Palestiniens à se libérer, d'autant plus que les paysans palestiniens sont dépossédés de la terre par les achats de terre par les sionistes. Donc, il y a une vague dimension religieuse, mais chez ces paysans palestiniens, il y a avant tout le souhait de défendre leur métier, leur travail de paysan. Donc, on ne peut pas surinterpréter la dimension religieuse avant 48 côté palestinien. Et après 1948, il est clair que le nationalisme palestinien qui émerge, qui accouche, qui se conforte, est un nationalisme laïque. Il faudrait bien sûr s'entendre sur le terme laïque, mais le Fatah est un mouvement d'ailleurs qui est mixte sur le plan communautaire, chrétien et musulman, qui appelle à l'édification d'une Palestine démocratique et laïque, d'ailleurs, dans laquelle il mentionne les musulmans, les juifs, et les chrétiens et les juifs. Et puis il y a deux mouvements qui montent en puissance, qui sont plutôt d'obédience socialiste, marxiste, qui sont d'ailleurs créés par deux chrétiens, l'un orthodoxe, l'un catholique, c'est Georges Habash pour le Front populaire de libération de la Palestine et Naïef Awadmé pour le Front démocratique de libération de la Palestine. Bref, ces trois partis qui créent l'OLP ne sont pas d'émanation religieuse, pas du tout, pas du tout. Les musulmans les plus religieux ont embrassé le courant des frères musulmans, mais ils restent en retrait du conflit. Et c'est là que Israël a instrumentalisé justement ces religieux. Je tiens ça, il y a pas mal de travaux, mais je vous invite à lire un livre de Charles Anderlin qui s'appelle « Le grand aveuglement, Israël et l'irrésistible ascension de l'islam radical ». C'est une très bonne synthèse en français de ce qui s'est passé. Les Israéliens ont joué les islamistes palestiniens contre les nationalistes laïcs palestiniens. Considérant qu'ils étaient moins dangereux, ils prônaient un retour à l'islam, à une sociabilité islamique, mais pas un engagement politique. Et donc, ils avaient droit de citer dans les médias israéliens. Ils le montrent. Quand, par contre, les membres de l'OLP étaient emprisonnés, et y compris, et j'en ai connu un, les Israéliens qui fréquentaient des gens de l'OLP pouvaient être emprisonnés. Donc on a facilité, je ne dis pas que les Israéliens ont créé les frères musulmans en Palestine, mais ils ont facilité la montée en puissance. Et sauf que ces Palestiniens islamisés vont se politiser et vont créer le Hamas et le djihad islamique. Et en fait, après on pourra nuancer dans les questions, en fait on voit très bien que cette politisation de l'islam en Palestine, qui a été facilitée en quelque sorte par les Israéliens comme antidote aux nationalistes laïcs palestiniens, a facilité la mise sous contrôle de la Palestine par les Israéliens. Jusqu'à aujourd'hui, où, puisque non seulement l'échiquier politique israélien est divisé entre les nationalistes de type laïque et les islamistes, puisque territorialement, maintenant, les islamistes du Hamas dirigent Gaza et les nationalistes du Fatah dirigent la Cisjordanie. Voilà. Donc c'est un divisé pour régner. C'est un divisé pour régner. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet. À chaque fois qu'il y a un processus de réconciliation entre le Hamas et le Fatah, vous pouvez être sûr qu'Israël va faire quelque chose. Je pourrais donner des exemples, mais ce n'est pas le sujet. Bref, voilà donc un conflit dans lequel, des deux côtés, le recours aux religieux a été tardif. Et encore une fois, tout ça montre la complicité de la communauté internationale. Puisque il me reste quelques minutes, l'islamisme. Alors là aussi, c'est assez paradoxal de faire une analyse profane de l'islamisme qui est une. Alors là, qui a vraiment trait aux religieux. On ne peut pas dire que l'islamisme n'a rien à voir avec le religieux. Bon, donc c'est un peu paradoxal de convoquer l'islamisme pour dire qu'il faut là aussi avoir une analyse profane. C'est quoi, alors c'est difficile de définir l'islamisme. D'un mot, on pourrait dire que c'est simplement, c'est une idéologie politique. C'est une idéologie politique avant tout, qui considère qu'il faut prendre le pouvoir au nom de l'islam. Voilà. Après, il y a plein de nuances entre islamistes, mais on n'a pas le loisir de développer ici. Il y a plein d'islamismes qui se font concurrence, voire qui s'entre-déchirent, qui se combattent même. Bon. L'islamisme, donc, c'est une idéologie politique, qui a émergé tardivement, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle. Je voudrais vous montrer que, ici, c'est que cette idéologie, c'est une idéologie réactionnaire, qu'on qualifierait de réactionnaire. Bon. Dans le rapport à certains rapports à la société, aux droits des femmes, par exemple. Bon. Donc, c'est une idéologie qui est réactionnaire. Mais, c'est ça que je voudrais vous montrer rapidement, sans nuance malheureusement, c'est aussi une idéologie réactionnelle. Et c'est là qu'est peut-être l'analyse profane de l'islamisme. C'est-à-dire que c'est aussi en réaction que cette idéologie a pu progresser. C'est aussi en réaction à des phénomènes extérieurs que des musulmans vont convoquer le lexique musulman pour s'opposer. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer, avec trois temporalités. Premièrement, l'émergence de l'islamisme va se situer dans un domaine colonial, en réaction au colonialisme, entre la fin du XIXe siècle et 1945. Puis il y a une deuxième temporalité, cet islamisme va se conforter dans un contexte de violence politique qui n'est plus le fait des États coloniaux, mais des États nationaux. la Syrie, l'Égypte, l'Irak, qui vont basculer vers toujours plus de dérives autoritaires et de prédations, ce qui va alimenter cette réponse politique de l'islamisme. Ça, c'est la deuxième temporalité. Et puis, il y en a une troisième, qui est une réponse à ce qui est perçu comme des agressions internationales. Et ça produit le djihadisme international, d'abord contre les soviétiques athées, puis contre les américains et l'Occident. Voilà. Trois temporalités qui montrent que cet islamisme, enfin, qui font que cet islamisme, qui était une idéologie très marginale, a pu à ce point prendre de l'essor au Moyen-Orient. Et par ricochet ailleurs. Parce que quand on parle de Boko Haram au Nigeria, c'est bien parce qu'il y en a eu au Moyen-Orient. Je disais, le Moyen-Orient, c'est central. Voilà, donc trois temporalités, trois moments qui montrent que cette idéologie réactionnaire est réactionnaire. Je vais un peu escamoter là, ce que je voudrais vous dire, mais première temporalité, le colonialisme. Le Moyen-Orient, l'Égypte et le Proche-Orient, si vous voulez, à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, vivent sous le joug des Ottomans, pour ce qui est du Proche-Orient, et des Anglais, pour ce qui est de l'Égypte. Donc, les Arabes du Moyen-Orient sont sous tutelle des Anglais et des Ottomans. Et à ce moment-là, il y a eu l'émergence d'une volonté de renaissance arabe. De renaissance arabe, qui est le fait, cette renaissance arabe d'intellectuels, surtout, qui considère que les Arabes ont été dépossédés de leur histoire parce qu'ils se sont divisés ou ils ont abandonné leur religion. Donc il y a deux courants qui vont émerger dans ce nationalisme arabe, hein, ce qu'on appelait la renaissance arabe, la Narda. Premièrement, c'est un courant donc nationaliste, plutôt laïque, qui considère que, eh bien, les Arabes doivent reprendre le chemin de l'histoire s'ils se réunissent autour d'une nation arabe qui est définie par la langue, par l'exaltation d'une certaine histoire, mais en tout cas pas par la seule religion islamique. C'est donc un nationalisme, si vous voulez, laïque, entre guillemets, laïque, qui est le fait de musulmans et de chrétiens, notamment Boutros al-Bustami, Georges Zeidan, bon, je vous les passe. Et puis, il y a trois autres intellectuels à ce moment-là qui disent, eh bien, il faut revenir, non pas à l'islam, mais à une certaine rationalité islamique. Leur lecture est la suivante. Si les Arabes ont quitté l'histoire, c'est parce que ils ont abandonné la rationalité islamique. Ils n'ont fait que reproduire une vague bigoterie religieuse. Une bigoterie religieuse. Ils ont abandonné la rationalité islamique, l'interprétation de l'islam, ce qu'ils appellent l'ijtihad, hein, l'interprétation de l'islam. Donc il faut reprendre ce chemin de l'interprétation. Ce ne sont pas du tout des extrémistes, hein, pas du tout. Voilà. Mais ils insistent davantage sur la ressource, le ressourcement islamique. C'est pas eux qui sont les parents de l'islamisme, c'est plus tard, dans l'Égypte, sous domination britannique, il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Hassan el-Banna, que vous connaissez peut-être, qui va fonder les Frères musulmans, qui est le grand-père de Tariq Ramadan, mais voilà. Bon, très intéressant ce que je raconte là. Surtout, c'est pas très important. C'est surtout pas très important pour le raisonnement. Donc, Hassan el-Banna, c'est intéressant, il vit dans une Égypte indépendante, mais dominée par les Anglais. C'est ça qui est très important. Je vous ai dit réactionnel. Hassan el-Banna, il est instituteur dans une ville qui s'appelle Ismaïlia sur le canal de Suez, et c'est une ville de garnison britannique. Et il voit le train de vie des Anglais, et surtout il voit le train de vie de cette petite élite égyptienne, Ismaïliote, qui s'acoquine de ces Anglais. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, il récrimine contre ces Égyptiens qui s'adonnent à l'Occident, ou qui se donnent à l'Occident. Et en même temps, il voit, dans ses écrits, on le voit, il décrit la situation des enfants pauvres de l'école auquel il enseigne. Pauvreté et train de vie des élites égyptiennes. Bon, donc, il prône l'islam comme solution. Et il va créer les frères musulmans. Le slogan, c'est « L'islam est la solution ». L'islam est la solution. Vous voyez, en réaction, en réaction. Donc, ils fondent les frères musulmans qui vont essaimer en Palestine, je l'ai dit tout à l'heure, en Syrie, en Jordanie, ailleurs. Ils vont avoir un coup de pouce avec la création d'Israël en 1948, ces frères musulmans. Pourquoi je dis ça? Parce que la guerre, la première guerre israélo-arabe, la création d'Israël, plus largement, tout ça est vu par ces frères musulmans comme la consécration du colonialisme. Israël est le bébé du colonialisme occidental. Et donc leur discours prend. Et ils vont se mobiliser de plus en plus, ils vont contester le pouvoir égyptien du monarque Farouk, qui est considéré comme l'homme lige des Anglais, de l'Occident. Donc, et son premier ministre est assassiné par un frère musulman en 1949. Voilà. Et Hassan el-Banna lui-même va être assassiné. Donc, les frères musulmans gagnent une influence du fait de cette guerre de 48. Et ils vont se ranger derrière une force en Égypte qui est importante à ce moment-là, c'est les Nassériens, qui prennent le pouvoir, justement, en 1952, dans cette ambiance de grand désordre en Égypte, ils prennent le pouvoir, Nasser, Gamal Abdel Nasser. Et là, on va entrer dans la deuxième temporalité, c'est-à-dire l'islamisme comme réponse au nationalisme arabe. Je vous ai dit qu'il y en avait trois, on en vient à la deuxième. Donc Nasser s'installe au pouvoir. Et vous savez que c'était un tribun, un orateur, et il a défié l'Occident. Il a défié l'Occident en 1956. Cette défiance, qui est vue même par les Arabes comme une victoire contre l'Occident en 1956, va décupler l'essor du nationalisme arabe. Je ne parle pas de l'islam. Le nationalisme arabe, c'est-à-dire cette idée que les Arabes doivent se retrouver dans une même nation. Une même nation. Ça fait écho au premier dont j'ai parlé, qui était qui n'était pas du tout des islamistes. Donc ce nationalisme qui est porté par des musulmans, des chrétiens, en Égypte, puis après, avec l'arrivée du Baas en Syrie, en Irak, mais on peut aussi considérer que la guerre d'indépendance de l'Algérie a été fortement poussée par l'influence de Nasser. Hein. Il y avait une radio, c'était pas Tweet à l'époque, c'était la voix des Arabes, avec les chants de Oum Kalsoum, donc on entendait les discours enfiévrés de Nasser, qui était un grand orateur, et les chants de Oum Kalsoum. Donc tout ça, ça a contribué à l'essor de ce nationalisme arabe. Et ce nationalisme arabe, donc, a accouché de pouvoirs nationalistes, certes, mais de plus en plus autoritaires, de l'Égypte à l'Irak, en passant par la Syrie, et je ne parle pas de l'Algérie, je reste au Moyen-Orient. Pouvoir de plus en plus autoritaire, avec des contrôles policiers énormes, et surtout, malheureusement, alors qu'ils avaient promis un essor économique au monde arabe, ces pays, ces régimes autoritaires, s'adonnent à de la prédation, l'autre nom, de la corruption. Donc, autoritarisme, prédation, tout ça fait le lit de qui? Des islamistes, qui en réaction, vont développer un discours antinationaliste. Je citerai un homme, Sayed Qutb, que vous voyez sur votre droite. C'est l'intellectuel par excellence de cette réaction au nationalisme arabe. C'est un Égyptien de Haute-Égypte qui a vécu aux États-Unis, qui a commencé à... Mais j'aurais voulu vous lire quelques citations de cet homme. C'était un intellectuel qui a vécu aux États-Unis en 1948, ce qui était quand même... Et il fit une réaction à l'Occident tout à fait extraordinaire. Il revient en Égypte et là, il va faire une réaction au pouvoir nassérien. Et il considère que Nasser, c'est avec Nasser et tous les nationalistes arabes, c'est le retour à l'ère pré-islamique, Jahiliya, c'est-à-dire l'ère pré-islamique. Voilà la lecture qu'il fait. Nasser, Hafez al-Assad, Saddam Hussein et tous ces hommes ne s'inscrivent jamais que dans l'ère pré-islamique. Pré-islamique. Vous voyez ? Et en plus, c'est un type brillant et il soulève les masses et il est tellement dangereux qu'il est pendu. Il est pendu en 1966, l'année de ma naissance. Je ne m'en souviens pas, mais enfin, j'ai lu.
Et, lui, non qu'est-ce, plus.
Lui non plus. Non, je n'ai pas eu rendez-vous avec Koutou. Donc, à partir de ce moment-là, et c'est ça que je voudrais. Les frères musulmans vont être écrasés par ces États autoritaires. Donc, beaucoup de frères musulmans vont être discrets dans le tissu syrien, égyptien, irakien, partout jordanien. Et les plus virulents vont être expulsés quand ils ne sont pas pendus. Et on va entrer dans la troisième temporalité, pour faire vite. Troisième temporalité, tous ces frères musulmans qui sont expulsés, les plus virulents, s'exportent en Arabie Saoudite. Je n'ai pas parlé de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un royaume qui vient d'être créé entre 1902 et 1932, qui s'est créé à la faveur de la rencontre d'un pouvoir dynastique, les Séouds, et d'une interprétation coranique, qui est l'interprétation hanbalite, revue par quelqu'un qui s'appelait Ibn al-Wahhab, dont, autrement dit, une interprétation extrêmement rigoriste de l'islam, mais qui n'était pas si politique que ça. C'est-à-dire que, dans l'Arabie Saoudite, qui émerge au XXe siècle, le pouvoir civil était de la dynastie des Saouds, et les religieux n'avaient que l'encadrement social et religieux de la population. Alors vous allez me dire, on joue sur les nuances, mais il y avait une séparation du religieux qui était le fait des wahhabites, très rigoriste, et le pouvoir des Saouds. Et c'est le cas encore aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. C'est une vision extrêmement littéraliste de l'islam. Alors ils considèrent tous les autres islams comme des islams, des quasi-apostasies, hein, des apostasies. C'est cette Arabie Saoudite qui est l'une de nos alliés aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, à l'époque, l'Arabie Saoudite ne prenait pas le djihad, hein, pas du tout, hein, pas du tout. L'encadrement de la société, oui, mais pas le djihad. Eh bien, ces frères musulmans qui arrivent, qui sont souvent très formés, d'Égypte, de Jordanie, de Palestine, qui sont repoussés en Arabie Saoudite, eh bien, ils vont rencontrer ces wahhabites qu'on appelle des salafistes. Et cette rencontre va produire progressivement le troisième temps, c'est-à-dire le djihad international. Ces frères musulmans salafisés, c'est-à-dire matinés d'islam encore plus rigoriste, vont devenir les figures violentes que l'on connaît. Troisième temporalité, j'y rentre, et très rapidement, eh bien, c'est à partir de 1979, la guerre en Afghanistan. L'Arabie Saoudite, qui est l'allié des États-Unis, qui est un relais de puissance des États-Unis, va financer les moudjahidines afghans en Afghanistan. Mais au fur et à mesure que les années 80 passent, eh bien, des hommes de cette Arabie Saoudite vont gagner l'Afghanistan, et notamment Ben Laden, que vous connaissez, mais également Zawahiri, qui est un Égyptien, Zarqawi, qui est un Jordanien, Azam, qui est un Palestinien. Bref, tous ces gens qui étaient en Arabie Saoudite, qui sont arrivés en Arabie Saoudite, salafisés, extrémisés, partent en Afghanistan et ils fondent Al-Qaïda. Al-Qaïda. Voilà. Donc c'est la lutte contre l'autre. C'est une réaction d'un mouvement réactionnaire. C'est une réaction donc aux soviétiques. C'est pas contre les États-Unis à ce moment-là. Ils fondent Al-Qaïda en 1988, ça veut dire la base du djihad, et qui va se tourner, et je vais en finir là maintenant, vers l'Occident à partir de 1991, suite à la première guerre du Golfe. Pourquoi? Parce que les Américains, notamment, sont venus dans les déserts d'Arabie Saoudite, ont violé le territoire saint de l'islam, pour eux, hein, en installant leurs troupes, les infidèles américains et autres. Et donc, Ben Laden, Al-Qaïda, vont désormais progressivement engager leur djihad contre l'Occident. Voilà. Donc, après la réaction contre les Soviétiques, c'est la réaction contre les Américains. Et il y aura une accélération par la suite, à partir de 2003, notamment. 2003, c'est là qu'on... Là aussi, c'est un élément de notre lecture profane. Cette guerre conduite en violation du droit international par les Américains, George W. Bush, qui mène une croisade, il le dit ainsi. Il mène une guerre, Jean-Paul II avait eu cette formule, mais personne ne s'en souvient, mais pourtant il avait dit Monsieur George W. Bush sera comptable devant les hommes, ou devant Dieu, et devant l'histoire et devant Dieu. Parce que, voilà, George W. Bush a violé le droit international. Ça ne veut pas dire que Saddam Hussein était un enfant de cœur, c'est pas du tout ça, mais il a violé le droit international. Pour une grande démocratie comme celle des États-Unis, c'est quand même un comble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement ils ont violé le droit international, mais en Irak, Paul Bremer, qui était le gouverneur américain en Irak, a totalement raté la transition, n'a pas réussi à faire le gouvernement d'union nationale qu'il, je ne suis pas sûr qu'il le souhaitait, et les chiites, ça c'est une autre dimension, ont pris le dessus sur les sunnites, et ça a donné lieu à l'arrivée de, à l'arrivée de djihadistes, ou à la transformation de sunnites en djihadistes en Irak, alors qu'il n'y avait jamais eu de djihadistes en Irak. Voilà. Donc cette guerre de 2003 met le feu à la région et apporte de l'essence, si vous voulez, à ce djihad international conduit par contre l'Occident, entre autres. Et on n'en est jamais sorti depuis, puisque Al-Qaïda Mésopotamie, qui est créé en 2003, c'est de très près l'annonce de Daesh, qui est créé en 2014, qui n'est jamais que la fusion de Al-Qaïda Mésopotamie et de groupes djihadistes qui émergent dans le contexte de la guerre civile en Syrie. Donc 2011 est effectivement un nouvel élément qui va produire de la réaction djihadiste. Là, vous voyez, sur l'islamisme, je fais une réaction, une lecture géopolitique. Hein. J'aurais dû le dire en introduction. Peut-être vous serez déçus, je n'ai pas d'approche par l'exégèse. Hein. Je ne veux pas, c'est pas que je m'y intéresse beaucoup, mais je suis pour la séparation des magistères, des compétences, et c'est tellement complexe que c'est des soirées entières qu'il faudrait passer sur le sujet, c'est-à-dire... le lien entre l'islam et le politique, l'islam et la violence politique. Là, simplement, j'ai voulu vous montrer que, si des liens y a, certes, ça serait crétin de dire que l'islamisme, le djihadisme n'a rien à voir avec l'islam, ça serait tout aussi crétin de dire que l'islam, par essence, annonce cela, parce que c'est aussi un propos, un raccourci pris. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des raisons très profanes, très triviales, qui expliquent pourquoi ce mouvement très marginal a pris tant d'importance, encore qu'il est en pleine crise, ce mouvement islamiste. Et on pourrait en parler dans les questions. Certains annoncent sa fin depuis quelques années. C'est peut-être pas demain, la veille. Mais bon. Troisième point en 10 minutes. Alors là, c'est pas sérieux de dire qu'on va prendre 10 minutes pour parler du troisième point, mais je voudrais quand même qu'il y ait un temps de questions et puis que les amis de la CERCA puissent présenter leur texte. Troisième point, la fitna, ça veut dire la division entre musulmans. Pardon. Lecture profane de la fitna, c'est-à-dire le conflit entre sunnites et chiites. Sunnites qui se considèrent comme dans l'orthodoxie religieuse, sunna c'est la tradition, et les chiites qui seraient un peu les hétérodoxes. Les hétérodoxes de cette tradition. Ce que je voulais vous montrer, là aussi en escamotant là, une grosse partie du réel, mais enfin, la ligne de force consiste à dire, certes, il y a conflit entre chiites et sunnites, mais c'est surtout dans la période récente, depuis 1979, qu'il y a eu intensification de ce conflit, et surtout depuis quelques années. Et pour des raisons moins religieuses que profanes, et en particulier du fait d'un conflit de puissance qui se noue dans cette région du Moyen-Orient entre l'Iran et l'Arabie Saoudite aujourd'hui et entre l'Iran et l'Irak dans les années 80. C'est avant tout un conflit de puissance qui fait que on va chercher dans l'histoire ce qui nous sépare. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément la division originelle entre chiites et sunnites qui rend le présent impossible. C'est le présent difficile, lié à un conflit de puissance entre l'Arabie Saoudite et l'Irak et l'Iran, qui fait qu'on va chercher dans l'histoire, qu'on recourt à la différence religieuse. C'est ça la grande idée. Je vous fais l'économie des schismes. Là aussi, ça pourrait être un cours. Alors, ça serait passionnant, hein. Mais en tout cas, la division entre chiites et sunnites, elle date de très longtemps. Quand le prophète est mort en 632, eh bien, la question de la succession s'est posée et on a donné le pouvoir à des califes, c'est-à-dire les lieutenants de Dieu sur terre. Les lieutenants de Dieu sur terre, Khalifa Allah, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu sur terre, les lieutenants de Dieu sur terre. Mahomet meurt à la Mecque en 632, il est d'une famille qui, d'une grande tribu qui sont les Quraychites, et d'une famille qui est la famille des Hachémites. Le premier successeur, c'est, vous les avez ici, hein, Abou Bakr, 632-634. Lui, il prend le pouvoir, on lui donne parce qu'il est très proche du prophète. Puis, après Abou Bakr, qui meurt en 634, vous avez donc Omar, 634-644, aussi très proche du prophète. C'est aussi un hachémite. Il est de la même parenté. Et puis, ça va commencer à se gâter au troisième, Osman, qui est un proche aussi de Mahomet. Il n'est pas de la même parenté, il est des Omeyyades. Donc, il meurt assassiné. Enfin, c'est pas le donc, je ne sais pas pourquoi, mais... il meurt assassiné. Et sa succession va aiguiser les contestations, va aiguiser les discordes. Et donc, il y a un conflit entre deux groupes, les partisans d'Ali, qu'on va appeler plus tard les chiites Ali, c'est-à-dire les chiites, et les partisans de Mouawiya, qu'on va appeler non pas les Mouawiyesques, mais qu'on va appeler les Omeyyades, qui sont jamais que le début des sunnites. Voilà. Ali est très proche du prophète parce que c'est à la fois son cousin et son gendre. C'est un hachémite, c'est son cousin et c'est son gendre. Il s'est marié avec Fatima. Bon. Donc, ses partisans considèrent qu'il a une légitimité familiale au-delà de son autorité. Pour les chiites, Ali est un personnage central, autant que Mahomet chez certains chiites. Et donc, ça donne lieu à des batailles. Finalement, Ali est assassiné par l'un des siens qui le trouve trop mou, c'est moi l'expression. Et puis, son fils repart à la bataille plus tard, Hussein, et Hussein défie le fils de Mouawiya, qui s'appelle Yazid, donc qui est un Omeyyade, hein, il le défie, conflit, et Hussein est assassiné en 80. Bon. Il est assassiné, il est enterré à Karbala. Bon. Et Hussein est vu comme un martyr par ses successeurs, les chiites. Chaque année, on fête la fête de on commémore la mort de Hussein à grand renfort de de rituels sacrificiels, de auto-violence, on se scarifie, on se fouette, c'est terrible. La fête de la commémoration de la mort de Hussein. Bon. Donc, ces partisans d'Ali, dont le fils était Hussein, on les appelle les chiites, à partir de ce moment-là. Et puis ces chiites vont se diviser par la suite, ils vont se diviser au long des siècles. Bon. Alors, le premier grand rameau, le plus important, c'est ce qu'on appelle les duodécimains, comme 12, parce qu'après Ali, il y a eu d'autres imams, jusqu'à un 12e imam, qui pour les chiites, duodécimains, est quelqu'un de tout à fait vénérable, et ils considèrent que c'est quelqu'un, c'est l'imam caché, il s'est occulté, le Mahdi. Et d'ici son retour, c'est un clergé qui doit prendre le leadership sur la communauté, c'est-à-dire les ayatollahs. En clair, ces duodécimains, on les trouve surtout en Iran, surtout depuis que la Perse a fait du chiisme la religion officielle en 1501 pour mieux défier les Ottomans qui étaient sunnites. Là aussi, on retrouve des raisons profanes au conflit. Hein. Et puis ces chiites, on les retrouve duodécimains, on les retrouve en Irak et au Liban. Et puis vous avez d'autres chiismes, les Zaïdites, les Ismaéliens, les Druzes et les Alaouites, qui ont défié, divorcé, si vous voulez, des autres chiites, à la faveur de quelques successions, et notamment les Zaïdites et les Ismaéliens considéraient que les duodécimains ne défiaient pas assez les Omeyyades et les Abbasides, autrement dit les Sunnites. Voilà. Et alors, on les trouve ailleurs, les Zaïdites sont au Yémen, les Ismaéliens dans une petite ville en Syrie, les Druzes, c'est très différent, les Druzes, et les Alaouites en Syrie, les Druzes au Liban, et en Israël surtout, et en Syrie. Ces chiites n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais rien. Rien. Pourtant, aujourd'hui, on nous parle d'un arc chiite qui associerait l'Iran, duodécimain, à la Syrie, à l'alaouite, entre guillemets, ils sont 10%. Alors même que les duodécimains et les alaouites ne se considèrent pas sur le plan religieux. Les alaouites étaient vus comme des apostats par les duodécimains. Donc il y a déjà une espèce de régional assez improbable entre des chiites qui n'ont rien à voir les uns avec les autres contre des sunnites, l'arc chiite dont on parle aujourd'hui. Pourquoi une telle représentation aujourd'hui, alors que finalement les rivalités entre chiites et sunnites, il y en a eu hein, de façon récurrente, mais jusqu'aux années 1970, ces rivalités étaient très sourdes, très sourdes, pas absentes, sourdes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on parle d'arc chiite et qu'on voit tant de haine chez Mohammed ben Salman, l'héritier saoudien, contre l'Iran, et tant de haine chez les Iraniens contre l'Arabie saoudite? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ici quelque chose qui emprunte aux logiques de puissance. C'est là qu'est la lecture profane de ce conflit. Voyez sur cette carte, on voit les gisements pétroliers et de gaz, ou plutôt je vais y revenir après. De puissance, je vais y revenir, pardon, j'ai été trop vite. Les rivalités chiites sunnites, je disais jusqu'aux années 70, elles étaient assez absentes. D'ailleurs, les rivalités étaient plutôt entre sunnites et sunnites. Jusqu'aux années 70. Par exemple, l'Arabie saoudite, qui était en conflit avec l'Égypte. C'était deux modèles de société. Un socialisme nationaliste d'un côté et un wahhabisme religieux de l'autre. Donc, le conflit n'était pas vraiment entre chiites et sunnites. Et je pourrais donner d'autres exemples. Pourquoi donc? Donc, si vous voulez, l'axe du conflit était le long de la mer Rouge, en quelque sorte, entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. Eh bien, à partir de 1979, cet axe de la rivalité des puissances se déplace sur le golfe Persique. C'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire là où il y a les gisements pétroliers. Vous les voyez, le pétrole, le gaz. Pourquoi tout le pétrole et le gaz, pratiquement tout le pétrole et le gaz de ce Moyen-Orient si riche, se trouvent là? Parce que, Alors on fait un peu de géologie, mais c'est très intéressant quand on fait une analyse profane des conflits, il faut aller dans le sous-sol parfois. Bon. Et la nature est ainsi faite que, bon, vous connaissez la tectonique des plaques, il y a des plaques qui passent sous d'autres plaques, et il y a notamment la plaque arabique qui passe sous la plaque iranienne. Et les accumulations de sédiments dans la plaque arabique, parce que c'était une mer, eh bien, au contact avec le magma, eh bien, ça fermente, ça chauffe, et ça fait du pétrole et du gaz. Et donc, vous voyez, cet axe des gisements pétroliers de gaz correspond au passage de la mer, de la plaque arabique sous la plaque iranienne. D'accord ? Eh bien, c'est là que l'axe géopolitique se déplace à partir de 1979. Pourquoi ? Parce que... Donc ça, c'est l'arrière-plan, cet arrière-plan pétrolier, gazier, qui va aiguiser les politiques de puissance. Pourquoi ça se déplace à partir de 1979 sur cet axe qui équivaut au gisement, à peu près ? Parce qu'il y a eu un événement, c'est 1979, c'est la révolution iranienne. Et alors que les Iraniens étaient, jusqu'alors, avec les Saoudiens, totalement en accord, les deux étaient alliés des États-Unis. Donc ils avaient une union sacrée entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Il n'y avait pas de problème, ils étaient alliés. 1979, c'est la révolution iranienne, qui était une révolution qui agrégeait des mécontentements divers, avec des mouvements de gauche, des mouvements libéraux et des mouvements religieux qui étaient plutôt marginaux. Mais finalement, les religieux étant plus organisés, ils prennent le pouvoir avec l'ayatollah Khomeini qui revient de France. Vous savez ça très bien. Et c'est là que les choses vont commencer à se compliquer, non pas du fait de l'Iran, c'est pas l'Iran qui va d'emblée instrumentaliser le conflit chiite-sunnite, c'est l'Irak. L'Irak qui est un pays laïque, qui a embrassé le socialisme arabe, de plus en plus prédateur avec le temps, avec Saddam Hussein comme grand patron, enfin, grand dictateur de l'Irak. Et qu'est-ce que fait Saddam Hussein ? Il déclare la guerre à l'Iran. Il déclare la guerre à l'Iran. Mais ce n'était pas du tout une guerre contre le régime des Mollahs parce que chiite et il fallait mener une guerre religieuse. Non, c'est parce qu'il avait des appétits de puissance. L'Irak, grand pays pétrolier, pour les raisons tectoniques que je vous ai montrées, eh bien, lui, vous savez, quand le pouvoir n'arrête plus le pouvoir, on finit par avoir un appétit de puissance démesuré. C'est ce qui est arrivé à Saddam Hussein. Et il déclare la guerre à l'Iran. Non pas pour des motifs religieux, mais pour des motifs pétroliers. Et avec la volonté de prendre le Khuzestan, qui est une région extrêmement riche en pétrole, qui jouxte l'Irak, qui est peuplée en plus d'Arabes, pas de Perses. Voilà. Donc c'est un motif géopolitique pur. Mais par contre, Saddam Hussein, il va jouer sur la fibre sunnite-chiite, alors qu'il n'en avait, pardon, passez-moi l'expression, rien à faire. L'histoire l'a démontré. Il a instrumentalisé la fracture chiite-sunnite à ce moment-là pour se tourner vers les pays du Golfe pour qu'ils financent la guerre contre l'Iran, l'Arabie saoudite, le Koweït et d'autres. Et donc, voilà, on recourt aux religieux pour une guerre au motif totalement profane. La guerre dure de 1980 à 1988, et puis cet appétit de puissance continue chez Saddam Hussein, qui envahit le Koweït, vous le savez. Pays sunnite. Donc la lecture religieuse, elle est un peu, à déconstruire, pour partie à ce moment-là. Donc, et à partir de ce moment-là, l'Irak subit une coercition de fait dans sa politique de puissance avec la guerre menée par la coalition internationale en 1991 contre l'Irak. Bon, ça en est pratiquement fini de la fin de politique de puissance de l'Irak. Et en fait, comme il me reste 2 minutes, 3 minutes,
une
minute. Et donc l'Arabie saoudite, autre grande puissance sunnite, de plus en plus grande, alliée des Américains, se trouve en face de l'Arabie saoudite à ce moment-là. Et le conflit monte en intensité. Et surtout, alors, Les Saoudiens craignent d'autant plus l'Iran qu'ils ont une minorité chiite sur leur territoire, qui est une minorité qui vit dans la région des gisements de pétrole. C'est assez mal fait dans l'ensemble. La minorité se trouve sur les gisements. Et donc l'Arabie Saoudite craint l'Iran, d'autant plus que l'Irak a disparu du paysage. Et l'Irak a disparu d'autant plus du paysage qu'en 2003, Saddam Hussein, vous le savez, est chassé et tué dans le cadre de l'opération américaine sur laquelle je ne reviens pas. Et à ce moment-là, pour les raisons que je vous disais, la gestion par les Américains est mal faite, les chiites prennent le pouvoir en Irak. Ce qui fait craindre aux pays arabes sunnites cette idée d'un arc chiite qui irait de l'Iran jusqu'au Liban, où il y a le Hezbollah, sur lequel je n'ai pas pu m'étendre, qui est un mouvement chiite. Il y a la Syrie, mais qui est alaouite, qui n'a rien à voir avec les duodécimains, qui est un allié de l'Iran depuis longtemps. L'Iran s'appuyant sur la Syrie, pas tellement pour des motifs religieux, mais parce que la Syrie avait une rivalité de pouvoir avec l'Irak. C'était une façon de... La Syrie est un allié politique dans sa guerre contre l'Irak. Bref, pour les Arabes sunnites, ça l'est trop 2003, et parce qu'il y a cette idée d'un arc chiite. On prête aux Iraniens l'idée qu'ils sont en train de construire un arc chiite. Et c'est d'ailleurs le roi de Jordanie, Abdallah, qui en 2004 parle d'un arc chiite. Et depuis, la situation ne va faire que se détériorer, et notamment avec les révoltes devenues révolution puis guerre civile en 2011, dans ce Moyen-Orient à feu et à sang, où tout est fait pour instrumentaliser les différences en Syrie, au Bahreïn, au Yémen, tout est fait en Irak, tout est fait pour instrumentaliser la différence entre chiites et sunnites. En Iran, en Syrie, Bachar el-Assad joue de plus en plus les minorités, dont la minorité alaouite, contre les sunnites. Les Saoudiens voient dans cette révolte contre Bachar el-Assad une occasion d'en finir avec un pays qui est contrôlé par l'Iran. Et c'est eux qui envoient le plus premier des djihadistes, ou qui financent les djihadistes en Syrie. Et c'est à ce moment-là que l'Iran va envoyer des soldats en Syrie. Donc 2011 est évidemment une date clé dans cette détérioration des relations entre chiites et sunnites. Mais encore une fois, et j'arrête là-dessus, c'est derrière et avant tout une guerre froide, c'est-à-dire une guerre par relais interposé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, comme c'était le cas entre l'Irak et l'Iran. Conclusion, 30 secondes. Quand on sort de là, la dimension religieuse, on est d'accord, elle est présente, mais elle est décuplée, d'autant plus que toutes les conditions sont là pour que ça se fasse. Conditions géopolitiques, sociales, économiques. Donc, il faut. Je crois que l'enjeu, quand on regarde ces conflits, c'est certes, au-delà du fait de reconnaître qu'il y a une dimension religieuse, c'est regarder les causes. Si on ne regarde pas les causes, on ne s'en sortira jamais. Camus avait cette belle formule: mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Si on nomme mal un conflit, on ne le solutionnera jamais. Et les solutions, bien sûr, je ne vais pas vous faire un programme de solutions ici, ça serait immodeste, déplacé et presque ridicule, mais il y a quand même plusieurs lignes. C'est le diplomatique. Le diplomatique a déserté la région. On n'est que dans le rapport de force. Et du coup, s'il n'y a pas de diplomatie, c'est ça, c'est la loi du plus fort. La diplomatie doit reprendre le chemin sur Israël-Palestine, c'est clair. Mais elle est loin de reprendre le chemin. On a une diplomatie, certes, mais déséquilibrée. Je ne reviens pas aux relations américano-israéliennes. Mais aussi, la diplomatie doit reprendre ses droits dans les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont au cœur de cette instabilité. On a une diplomatie très déséquilibrée. On doit parler à l'Arabie Saoudite, mais aussi à l'Iran. Je l'ai dit trois fois. Voilà. La diplomatie américaine, on connaît son déséquilibre, mais les diplomaties européennes, malheureusement, ont suivi la diplomatie américaine. Il faut vraiment reprendre le chemin du dialogue avec les deux. Donc les solutions sont diplomatiques, les solutions sont politiques, c'est la reconstruction d'états de droit fondée sur les citoyens autant que sur les communautés, j'ai peut-être pas le temps de revenir là-dessus, avec une forme de laïcité, mais ça, évidemment, on pourrait discuter de laïcité dans le monde arabe, mais je cite ce que disait un évêque irakien en 2005 au moment de la discussion sur la constitution irakienne, il disait ceci: nous voulons un État démocratique, civil, pluraliste, fédéral, qui sépare la religion et l'État, c'est-à-dire la non-politisation de la religion et la non-religiosation de la politique. Parce que le drame est là. Le drame est là, aussi dans la confusion qu'on peut faire entre le politique et le religieux. Les solutions sont économiques, évidemment. Cette prédation économique entretenue par les pouvoirs syriens, irakiens, égyptiens font le lit des mauvaises réponses, en l'occurrence l'islamisme, c'est clair. C'est aussi une révolte des pauvres. Donc les solutions, elles sont très triviales, elles sont économiques. Et les frères musulmans n'apportent aucune solution sur le plan économique. Pas plus que... En fait, ils ont, quand on regarde le programme d'après, ils ont les solutions des néolibéraux américains, les frères musulmans. Je ne suis pas persuadé que ce soit les solutions pour accoucher de sociétés inclusives. Et enfin, les autres pistes de pacification, elles sont d'ordre plus spirituel, plus religieux. C'est le chemin vers soi, c'est-à-dire, ça renvoie à l'exégèse en islam. Hein. Bon, ça, ce n'est pas de mon fait. Et puis, c'est le chemin vers l'autre, c'est le dialogue interreligieux, dans lequel je tiens à souligner le rôle des chrétiens, puisque je n'en ai pas parlé, au Moyen-Orient, notamment au Liban ou à l'université Saint-Joseph. Vous avez une chaire de dialogue interreligieux qui est la plus en pointe dans tout le Moyen-Orient, où interviennent là des professeurs des musulmans et des chrétiens, chacun exposant sans contradiction de l'autre les canons, les credos de chacune de ces fois. Donc il y a beaucoup d'initiatives aussi pour aider à pacifier cette région. Voilà, et je terminerai d'ailleurs, puisque j'ai parlé d'effet de loupe, on a beaucoup parlé des entrepreneurs de violence, de la violence, mais je voudrais terminer en faisant un hommage à tous ces artisans de paix, et Dieu sait si j'en ai rencontré, et que vous avez certainement rencontré, qui œuvrent loin de la fenêtre du cadre médiatique, et qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.